jour, de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous interroger sur l'art et la meilleure manière de faire passer sa science, dans tous les sens et avec tous nos sens, visuels, auditifs, tactiles et même gustatifs, pour partager l'émerveillement et les émotions des chercheurs, l'aspect ludique de leurs expériences, mais aussi les profondes interrogations, quasiment métaphysiques, qu'ils soulèvent. Comment faire émerger et développer cette culture scientifique dont nous avons tant besoin aujourd'hui pour comprendre un peu mieux ce monde dans lequel nous évoluons et l'univers qui nous entoure. D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Question ouverte, avec humour et sérieux, en ce joli mois de mai, dans deux festivals scientifiques originaux, juste comme on aime. Pint of Science, ou comment partager un verre avec les plus grands scientifiques, dans un bar, un pub ou un café en France, mais aussi ailleurs dans le monde, au Kenya, en Irlande, au Laos ou au Brésil, vous reprendrez bien une pinte de science. À moins que vous ne préfériez inaugurer à Paris, au Ground Control, la première édition du festival Double Science, du 26 au 28 mai, auquel participeront nos invités, le génial astrophysicien et conteur David Elbaz, le non moins génial généticien et blogueur Pierre Kerner et la tout aussi géniale Tania Louis, virologue, médiatrice et autrice, autour de la question « Comment cultiver l'esprit des sciences ?» Bienvenue au bras de notre cosmologiste et conteur David Elbaz pour entrer dans la danse des galaxies.
Au moment où je vous parle, nous nous déplaçons à pratiquement 1 million de kilomètres heure autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Eh bien, nous sommes en train d'engendrer des vagues dans un océan. Cet océan, c'est la galaxie, la Voie lactée. Et ces vagues provoquent de l'écume. Et dans l'écume des vagues, naissent de nouvelles étoiles. C'est en dansant que les galaxies engendrent de nouvelles étoiles, qu'elles sont fécondes. Mais il existe des galaxies, là, tout près de nous, à quelques millions d'années-lumière, qui ont cessé de danser. Elles sont devenues stériles, elles ne forment plus d'étoiles. Ces galaxies, on les appelle des galaxies mortes, il y a même des cimetières de galaxies. En leur centre, il y a des trous noirs supermassifs, on a accusé pendant longtemps les trous noirs d'être des tueurs de galaxies. La réalité, la voilà, je vais vous la révéler. Lorsqu'une galaxie cesse de danser, la vie est terminée pour elle, elle ne donne plus naissance à de nouvelles étoiles. Alors, dansons.
Merci de nous faire entrer dans la danse des galaxies, David Elbaz, bonjour.
Bonjour Caroline Lachowski.
La danse des galaxies, la danse du cosmos, c'est à la fois merveilleusement poétique et totalement scientifique, cher David. Vous avez d'ailleurs publié un livre sur cette danse du cosmos, joliment intitulé « Les mille et une nuits de l'univers ». Vous êtes aussi l'auteur remarqué de « La lumière » ou « La plus belle ruse de l'univers », on va y venir. Car l'éminent astrophysicien, le découvreur de galaxies que vous êtes, directeur du département astrophysique du CEA, responsable également de l'instrument imageur MIRIM sur le James Webb télescope, n'aime rien tant que partager sa science en se faisant quasiment conteur. C'est ça, hein, David ?
Oui, tout à fait. Alors, juste une petite correction, je ne suis pas le directeur
du département d'astrophysique.
Enfin, je suis directeur scientifique et c'est l'institut qui a réalisé cette caméra MIRIM pour le télescope spatial James Webb, mais c'est un collègue qui est interresponsable qui s'appelle Pierre-Olivier Lagage.
Alors, citons Pierre-Olivier Lagage, voilà. Et vous faites partie de cette équipe géniale du CEA qui travaille sur cet instrument, sur le James Webb télescope.
Mais alors, justement, vous voyez, cette histoire des danses des galaxies, ça illustre très bien le cœur du sujet dont on va parler, parce que j'ai pensé à cette image parce qu'elle permettait d'illustrer un phénomène qui est réel, c'est que dans l'univers, il n'y a qu'une seule chose qui attire à distance, c'est la gravité, qui fait que tout devrait s'effondrer, tomber dans les trous noirs. Et la raison pour laquelle tout ne s'effondre pas, c'est parce que les galaxies dansent, parce qu'elles tournent sur elles-mêmes. Mmh. Et ce faisant, je parle d'écume, des vagues, etc., mmh, avec lesquelles on mesure la vitalité des galaxies. Et je me suis rendu compte, en racontant cette histoire, que l'océan a des vagues dont l'écume a une couleur qui vient des microplanctons qui donne cette couleur, et que plus cette couleur est blanche, plus elle est intense et plus cet océan est vivant et doté de vitalité. Et donc, c'est une analogie en fait qui va au-delà de ce que moi-même je pensais. Et souvent, justement, dans l'exercice du partage, quand on essaye de raconter une histoire qui fait sens, pour partager la connaissance, eh bien, on découvre des liens, on tisse de nouveaux liens qui vont avoir des effets en retour, pour nous faire avancer dans le champ du savoir. Et ça, c'est pas toujours prédictible. Et c'est une raison qui fait que je pense que tout scientifique se doit à un moment donné, de tenter cet exercice de raconter son histoire.
C'est-à-dire qu'en racontant, en faisant passer votre science, vous découvrez ou vous entendez des choses qui vous mettent sur d'autres pistes que vous n'auriez peut-être pas découvert dans votre laboratoire.
Tout à fait, exactement. Par exemple, un réalisateur qui va raconter une histoire, la Seconde Guerre mondiale ou autre, il se rend compte que ça va intéresser personne s'il ne prend pas un angle particulier. Mmh. Et cet angle particulier vous conduit sur des pistes que vous n'aviez pas prévues. Pour moi, par exemple, ça a été sur la lumière, où ce qui m'a conduit à écrire un article récemment, alors que je pensais raconter une histoire comme ça. Si je peux vous donner un exemple très
oui,
rapide.
Allez-y, bien sûr.
Je vais vous donner une première version de raconter une histoire. Au CERN, on réalise...
Au grand accélérateur de particules
du CERN, et dans cet environnement-là, on réalise des antiatomes faits d'antimatière. Voilà, ça c'est une information. Deuxième façon de vous raconter l'histoire. Un jeune scientifique qui s'appelle Gerald Gabrielsen travaille dans cet environnement et demande « Excusez-moi, est-ce que je peux vous emprunter quelques particules d'antimatière ?» Ses collègues lui disent « Mais attendez, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous savez bien que ça annihile, ça explose. Non, mais laissez-moi faire, je voudrais juste les emprunter. » Il les emprunte, il les piège, il invente un piège et il fabrique les premiers anti-atomes. À partir de là, il est invité à l'exposition universelle pour faire une gerbe qui pourrait exploser, qui pourrait faire de la lumière avec des anti-atomes. Dan Brand, qui apprend ça, écrit le livre « Anges et démons », s'inspire de ça, il met une bombe d'antimatière dans le Vatican et cet individu qui était juste un jeune étudiant qui se retrouve imbriqué dans une histoire qui va au-delà et qui maintenant est peut-être une des meilleures manières de tester les limites de la physique. Et on est en train aujourd'hui de se demander si je prends un atome, un anti-atome, l'atome il tombe parce qu'il est attiré par la gravité, est-ce que l'anti-atome il monte dans le ciel et est-ce qu'il nous ferait rêver en imaginant de l'antigravité? Ça, c'est une autre façon de raconter, on a réussi à faire de l'antimatière.
Génial, quand la fiction, quand l'histoire vient au service de la science.
Exactement.
Et la science-fiction d'ailleurs vient souvent au service de la science. Tout est bon de toute façon, j'ai l'impression, pour faire passer sa science quand on est chercheur. Et surtout, les recherches et les découvertes les plus étranges, n'est-ce pas Pierre Kerner?
N'est-ce pas, ouais, je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez, parce que là vous vous avez concentré sur le fait qu'un message qui est fictionnel peut nous permettre d'avoir une autre perspective en tant que nous, chercheurs, par rapport à la science qu'on produit. Mais je pense qu'on oublie aussi qu'il y a une autre vocation à pouvoir passer la science, c'est de créer des vocations. Je ne pense pas que la plupart des chercheurs se sont intéressés à leur milieu, à leur discipline, en regardant deux ou trois équations ou en faisant comme moi des dissections. Peut-être, mais c'est souvent parce qu'on a été en contact avec justement... Le terme va être lancé, mais la vulgarisation scientifique.
C'est ça. Voilà. Même si on n'aime pas ce mot, c'est ça. C'est de la vulgarisation scientifique. C'est quelqu'un qui vous donne envie. C'est quelqu'un qui peut servir de modèle. Alors, je rappelle, Pierre Kerner, que vous-même, vous êtes biologiste, maître de conférences en génétique évolutive du développement, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité, auteur aussi de plusieurs ouvrages assez tordants et passionnants. Je peux citer Moi, Parasite, ou encore la toute nouvelle BD L'Odyssée de l'évolution que vous avez publié chez Delcourt. Mais vous êtes aussi connu des internautes pour votre blog Strange Stuff and Funky Things.
Bravo.
Oui, c'est presque un titre musical, mais d'ailleurs c'est inspiré d'un groupe de musique.
Exactement.
Dans lequel vous relatez les événements les plus surprenants, incroyables du vivant. On vous entendra d'ailleurs tout à l'heure dans vos œuvres, dans vos collaborations aussi avec toute cette galaxie formidable de youtubeurs de science. Et vous serez aussi Pierre Kerner ce soir au bistrot de la Mangue dans le cadre du festival Pint of Science, une pinte de science, pour raconter l'odyssée de l'embryon, rien que ça. Donc pour vous, Pierre, c'est indispensable de partager sa science pour susciter des vocations, mais de toutes les manières possibles.
Alors pour moi, je dois avouer, c'est une compulsion. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui m'a façonné durant tout mon cursus universitaire.
D'accord.
J'ai besoin d'expliquer pour mieux comprendre moi-même. Donc je partage un petit peu cette idée qu'a David Elbaz, c'est-à-dire qu'en expliquant à d'autres, on synthétise, on essaye de justement essayer de trouver des moyens de simplifier, et en cherchant à simplifier, on s'approprie le savoir. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'enseigne moi-même à mes propres étudiants. J'ai plusieurs unités d'enseignement de passage de sciences et dans lequel mes étudiantes et étudiants sont confrontés à des sujets. On essaie de prendre les plus arides possibles pour pouvoir les pousser à essayer de, d'une part, les simplifier pour pouvoir les passer à leurs camarades, mais aussi de se les approprier. Une des UE d'enseignement dans laquelle j'enseigne s'appelle Culture Biologique biologique numérique. Et ça dit bien son nom, c'est-à-dire qu'ils vont, s'approprier une propre culture biologique. Alors, ça s'appelle numérique parce que justement, ils le font sur les nouveaux formats, le blog, le podcast, la vidéo.
Ouais, de l'intérêt de la fiction, nous sommes des êtres qui aiment beaucoup nous raconter des histoires. Et c'est quand même comme ça qu'on fonctionne. Je pense que vous allez être d'accord avec ça, vous aussi. Tania Louis, vous êtes par téléphone avec nous depuis l'Aveyron. Bonjour Tania.
Bonjour.
Merci d'être en lien téléphonique avec nous. Alors vous êtes Tania, biologiste, virologue de formation, autrice et médiatrice scientifique. Vous aussi, comme Pierre, je dirais pas comme David, hein, parce que l'astronomie et l'astrophysique, ça peut passionner tout le monde, mais vous êtes spécialiste d'un sujet qui, a priori, n'a pas de quoi déchaîner les foules. La biologie cellulaire, moléculaire, les virus, c'est pas particulièrement sexy. Et pourtant, Tania, vous parvenez à transmettre, à travers vos interventions, hein, multiples, vos vidéos, vos ouvrages, on peut citer La folle histoire des virus, ou encore plus récemment La science en s'amusant, vous parvenez à faire passer donc cette culture scientifique à laquelle je tiens, cet esprit scientifique dont on a tant besoin. Vous allez à la fois proposer des ateliers assez ludiques dans ce festival Double Science, mais aussi participer à une table ronde intitulée justement « Comment vulgariser quand on est chercheur ?» Tania Louis, nouvelle question pour vous finalement. Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est mieux quand même d'être chercheur au départ ou chercheuse hein, pour être, je ne sais pas comment dire, j'aime pas tellement ce mot vulgarisateur, mais passeur, passeuse de sciences.
Alors, je vais peut-être m'inscrire un peu en faux avec ce que disaient mes deux collègues, mais je pense que non.
D'accord.
En fait, vous rassurez, il y a deux questions différentes. Que... Je pense que c'est très important que les chercheurs fassent de la vulgarisation. Vraiment, c'est fondamental. D'une part, comme l'évoquaient David et Pierre, parce que ça apporte quelque chose aux chercheurs eux-mêmes. D'autre part, parce que ça fait partie de leur mission. Hein, si on remonte au code de la recherche, faire de la diffusion des savoirs fait partie des missions des chercheurs. Mm-hmm. Parce que la recherche étant financée en grande partie par des fonds publics, c'est aussi un devoir de rendre compte aux citoyens du travail qui est fait dans les laboratoires. Mais par contre, je ne pense pas que la vulgarisation soit l'apanage des chercheurs. Parce qu'on n'a pas besoin de construire de la connaissance pour être capable de la diffuser. Mmh. Et tous les enseignants peuvent en être témoins, puisque les enseignants sont les premiers passeurs de sciences, en réalité, hein, en nombre. Ce qui compte vraiment pour pouvoir diffuser les sciences, bon, je pense que d'une part, c'est de les aimer. Et d'autre part, c'est de savoir rechercher et synthétiser des informations. Mmh. Et ça fait partie des compétences qu'on acquiert quand on fait de la recherche, mais on peut les acquérir de plein d'autres façons différentes.
Donc vous voulez aussi faire émerger une culture scientifique, mais finalement, alors là, pour le coup, en faisant feu de tout bois, je disais que vous me rassuriez, parce que moi-même, je n'ai pas de formation scientifique, mais simplement, c'est vous tous et vous toutes qui me nourrissez de toutes ces questions-là, que j'essaye de faire partager autour de la question comment cultiver l'esprit scientifique, comment dire, aussi ailleurs que sur les bancs de l'école ou de la fac, et pourquoi du coup ça intéresse tout le monde. Allez, je propose tout de suite une petite infusion de sciences publiques avec la première édition de ce festival de vulgarisation scientifique Double Science qui se tiendra à Paris, je l'ai dit, du 26 au 28 mai dans le grand espace ludique où on peut aussi se restaurer, Ground Control. Bande annonce, un petit teaser.
Un stéréoscope.
Je sais même pas ce que c'est. En fait, c'est à partir du moment où on se rend compte que la science, c'est pas juste un outil ou c'est pas juste des connaissances qu'on apprend, mais c'est des connaissances avec lesquelles on peut jouer et expérimenter dans la vie. Je viens de reprendre, il n'y a pas très longtemps, un microscope que m'avaient offert mes parents avec lequel j'avais observé du sucre. Et aujourd'hui, maintenant, on l'utilise pour faire des lives sur Twitch. et ça, c'est juste incroyable de se dire qu'on peut faire des choses et découvrir le monde qui nous entoure avec des choses aussi simples.
On a récupéré avec mon copain un stéréoscope. C'est un objet qui permet de voir des vieilles gravures sur du verre en 3D. C'est des premiers instruments de visualisation 3D. C'est en bois avec des vieilles lentilles.
Okay.
Vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues?
Vous voulez jouer avec des choses avec lesquelles vous n'avez jamais joué?
Venez.
Venez, chers amis auditrices et auditeurs, si vous êtes à Paris, venez à Ground Control pour ce festival Double Science. Tania Louis, vous allez proposer des expériences de science un peu amusantes. Qu'est-ce que vous allez proposer dans ce festival Double Science?
Je pense que ça fait bien écho à ce qu'on vient d'entendre. Moi, une des choses que je trouve fondamentales, c'est d'essayer de désacraliser les sciences. Parce que pour beaucoup de personnes, les sciences, c'est avant tout une matière à l'école, qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas. alors qu'en fait, les sciences sont partout dans notre quotidien. Et donc, mon créneau, moi, en tant que médiatrice par rapport aux expériences, c'est ce que je faisais notamment dans le livre « Les sciences en s'amusant », et c'est ce que je vais refaire ce week-end au Festival Double Science, c'est de faire des expériences qui se basent uniquement sur des objets du quotidien qu'on a à peu près tous et toutes dans nos placards.
Par exemple.
Pour montrer d'une part que la science est partout. Par exemple, je peux vous donner un tutoriel d'expérience.
Allez-y.
Vous pouvez essayer de le refaire chez vous.
Allez-y.
C'est très facile. Il vous faut une feuille de papier et un verre d'eau.
Voilà. Jusque-là, ça va.
Rien de plus compliqué. Tout le monde a ça. Donc, remplissez votre verre d'eau, pas forcément jusqu'en haut, peu importe. Mettez-vous au-dessus d'un évier au cas où, parce que ça demande un petit coup de main quand même. Posez la feuille sur le verre. Mettez votre main bien à plat au-dessus de la feuille. Il faut que vous appuyiez vraiment sur tous les bords du verre avec votre main. Donc, si le verre est petit, c'est un peu plus facile. Retournez le verre. Donc là, vous avez sur votre main une feuille et un verre par-dessus.
Oui.
Et ensuite, continuez à tenir le verre, mais enlevez la main qui est sous la feuille. Et vous allez voir que, si vous avez bien fait l'expérience, la feuille reste collée au verre et que le verre ne se vide pas. Voilà. Donc ça, c'est une expérience qui, quand elle est réussie, est très spectaculaire.
Ben
parce
oui.
qu'on a un verre tenu à l'envers avec simplement une feuille de papier en dessous qui ne se vide pas et qui ne demande très, très peu de matériel. Et à partir de ça, on peut commencer à raconter des choses hyper intéressantes sur de la physique.
Extra, hein. C'est quand même à partir de rien qu'on peut faire beaucoup. Et ce que je trouve génial dans ces festivals de sciences et avec vous, tous et toutes, c'est qu'on peut passer d'une expérience comme ça qui fait briller les yeux à David Elbaz. Vous nous avez fait passer une vidéo extraordinaire qu'on a mis d'ailleurs sur notre page Facebook avec les images recueillies par le James Webb Télescope qui sont mis, ces ondes-là sont mis en musique. C'est complètement bouleversant et d'un seul coup on voit ce que voit le James Webb Télescope. Par exemple.
Oui, par exemple, parce qu'en fait, bon là, en l'occurrence, c'est l'identification de deux petites étoiles dans un reste d'étoiles, et c'est le son nous permet d'identifier de façon intelligente des cohérences qu'on voit pas nécessairement à l'œil nu. On a fait comme ça avec un ami qui est neurobiologiste. On raconte des histoires autour de ça. Et lui-même a créé... Il peut montrer qu'il y a une cohérence de l'activité des neurones qu'on pensait être au début du bruit, au début de l'électroencéphalogramme. Et puis après, on s'est rendu compte que ce qu'on croyait être du bruit, c'est une forme d'activité spontanée des neurones et qui, finalement, quand on la transcrit en musique, on l'entend. Et on peut même apprécier cette musique. Et quand on écoute la musique de son propre sommeil, ça peut nous aider à dormir. Il a d'ailleurs créé une start-up avec ça.
Extra. Ordinaire. Quand on entend notre propre musique intérieure, les ondes retranscrites en musique.
Ouais, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, c'était de la vulgarisation. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire, voilà, notre cerveau a une activité, même quand on n'est pas soumis à nos sens, sans stimuli sensoriels. On va le transcrire en musique pour le faire reconnaître. Et puis, il a écouté la musique de son sommeil comme ça. Et puis, mon ami Alain Destex. Et puis, il s'est rendu compte qu'il était en train de s'endormir. Et donc là, il a fait une découverte inattendue.
Okay.
Voilà.
Donc on reste aussi là dans ces découvertes inattendues. Alors par exemple, Pierre Kerder, bon, c'est peut-être autre chose, mais moi ça me fait beaucoup rire. Vous avez quand même inventé un nouveau mot de la langue française. Expliquez-nous ce qu'est le choupisson.
Alors le choupisson, c'est un mot que j'ai inventé sur mon blog en 2008. Non, pas en 2008, ça devait être nécessairement un tout petit peu plus tard parce que mon blog est né en 2009, pas très très loin après la création de mon blog, et qui pendant très longtemps a été complètement oublié. Je lui présentais tout simplement des photos d'animaux bébés rigolos, et pour trouver le nom d'un bébé hérisson, je n'avais pas trouvé sur un dictionnaire.
Il n'y avait pas de mot pour dire les bébés hérissons.
Non, même pas hérissonaux, et donc je me suis dit, ah bah voilà, pourquoi elle ne pas les appeler choupissons.
Oh oui, ils sont trop choupis, les choupissons. Ben
exactement, d'ailleurs. Voilà. Et il s'avère que presque 5 ans plus tard, ça a été un phénomène internet viral. Il y a beaucoup de gens qui ont fait « Ah, vous connaissez le vrai mot du bébé hérisson, c'est choupisson ». Alors, moi, la première fois, j'étais assez surpris. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui a véritablement mené une enquête pour pouvoir établir que c'était bien moi, sur mon blog, qui avait créé ce mot. Et j'en suis assez ravi parce que moi, je suis fasciné par l'étymologie, la création, justement. Une partie du travail des chercheurs et de mes collègues, c'est de trouver des nouvelles espèces et les nommer. Et donc, de pouvoir contribuer justement à cette discipline-là, eh ben, je suis assez content, même si c'est beaucoup plus, on va dire, grand public que ce que font mes collègues.
Autour de la question, comment cultiver de toutes les manières possibles l'esprit scientifique, rappelons qu'on peut le faire donc avec tous nos sens et même en musique, vous l'avez dit, David Elbaz, autre preuve tout de suite, avec cette chanson extraite de la chaîne que vous aimez bien tous et toutes, que nous a ressoufflé Tania Louis, A Cappella Science. Je vous invite d'ailleurs à la découvrir, chers amis auditrices et auditeurs. De jeunes scientifiques, musiciens, chanteurs, chanteuses s'amusent à pasticher ou à inventer des chansons comme celle-ci, tenez, au moment de la détection des ondes gravitationnelles par les collaborations internationales LIGO et Virgo. On écoute tout de suite LIGO, Feel That Space sur RFI.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Testing me, the data might be wrong. A pre-planned concocted recipe and played up all along. But at least my graphs are beautiful with sigma 5.1. This I know, this I know. They told me don't worry about it. Analyze the chart and no more. They told me be careful and die. Rippling through, feel the wave of gravitation. Oh, LIGO feels when space is rippling to a tensor perturbation. Oh, vacuum sealed interferometer an L5 mile long. Speed of laser bounce 300 times compared to distance gone. One feels in Louisiana and one more in Washington. That's LIGO. LIGO, yeah, LIGO. A billion light year journey to cover. Then it hit the fairy mirror. Flagging one leg, then the other. Making bridges dance on the dial. LIGO feels when space is rippling through. Feel the wave of gravitation. LIGO feels when space is rippling through to a tensor perturbation. LIGO feels that space is rippling through from an ancient amalgamation.
LIGO, Feel That Space, plutôt funky et réussi, cette chanson dénichée sur ce site incroyable, A Cappella Science, Pierre Kerner. Et dites-nous en plus sur ce site.
Donc là, ce qu'on a entendu, c'est véritablement A Cappella, c'est-à-dire que toute la musique, les instruments, etc. sont reproduits par Tim Bless, donc l'auteur, à la bouche. Et moi, même ce soir, pour
la Pint of Science,
je vais diffuser une de ses vidéos qui met à l'honneur ma discipline, l'Evo Devo, qu'il a fait en pastichant Despacito.
On a failli la passer. Thibaut Baduel, mon réalisateur, il aurait bien voulu la voir, hein, celui-là. Bon, bah, donc, pour écouter Despacito pasticher A Cappella magnifiquement bien, il faut donc aller ce soir. Alors, je sais où vous serez, c'est au Bistrot de la Banque à Paris, ouais. Dans le cadre de ce festival Pint of Science, sur lequel on va revenir évidemment, Pierre Kerner. Alors, c'est déjà complet, hein, je crois. Voilà. Donc, voilà, ça a un peu trop de succès. Autour de la question comment cultiver justement l'esprit scientifique, il faut rappeler que ce Pint of Science, ce festival, a d'abord démarré dans un pub anglais, hein, Pint oblige. Il s'est maintenant étendu au monde entier. Il a donc lieu en ce moment même et jusqu'à demain, mercredi 24, non seulement en France, mais aussi au Mexique, au Brésil, au Kenya ou au Laos, à Vientiane. Vous nous écoutez sur 100.5. Vous pouvez aller sur le site de Pint of Science et autour d'un verre, dans un bar, rencontrer par exemple ce soir Pierre Kerner. Vous allez parler de l'Odyssée de l'embryon. à Pint of Science. C'est ça,
exactement. En reprenant un tout petit peu le fil de l'histoire, justement, de l'Odyssée évolutive, cette BD que j'ai publiée aux éditions Delcourt avec l'illustrateur Max Sandon. Et je suis assez content parce que c'est quelque chose qui a été fait, organisé notamment avec l'Université Paris-Cité. Et donc, il y a une autre personne qui fait partie de l'institut dans lequel je travaille, l'Institut Jacques Monod, qui s'appelle Anaïs Vertueux, et qui va parler, elle, de la division cellulaire. Et donc, je reprends toute l'explication qu'elle va faire sur comment une cellule se divise. Et j'explique la suite avec justement comment, à partir d'une cellule œuf, on va obtenir plusieurs divisions pour aboutir à un embryon.
Et tout ça autour d'une panne de bière ou d'un verre d'eau, hein, si on préfère, il n'y a pas de souci. Ce festival Pint of Science France est géré par une autre formidable chercheuse et passeuse de science, Élodie Chabrol, qui a même réussi à maintenir ce festival pendant le confinement. Elle a maintenu le quiz, le fameux quiz de Pint of Science, auquel, chers amis auditrices et auditeurs, vous allez pouvoir participer tout de suite. En écoutant la question que posaient Élodie et Marion de la Casemate à Grenoble, autre grand lieu de diffusion de science, car vous pouvez vous aussi, derrière votre poste, répondre à ce quiz à la fin de cette émission et même remporter, qui sait, allez, la BD, la bande dessinée de Pierre Kerner grâce à ce quiz virtuel datant de 2020 de Pint of Science. C'est parti.
Alors, pourquoi est-ce qu'on est là à faire un quiz ce soir? Normalement, le quiz fait vraiment partie intégrante des soirées Pint of Science. C'est généralement une pause ou en intro. Ça nous permet de faire gagner des goodies Pint of Science, ça nous permet de faire gagner éventuellement des petits cadeaux, ça permet de poser plein de questions de science assez sympas et rigolotes. Le quiz va durer à peu près 2 heures. Vous avez encore quelques secondes pendant que la première invitée de la soirée apparaît pour vous poser sa question. Bonsoir Marion.
Bonsoir Elodie, bonsoir à tous.
Écoute, on va lancer le quiz. Je vais le lancer avec toi.
Donc je commence. Vas-y. Donc tous ces mondes ont été créés par des auteurs de fiction, sauf un qui a été créé par des scientifiques. Lequel? La téléportation, la terraformation, le laser ou le robot? Donc tous les mondes ont été créés par des auteurs de fiction, sauf un qui a été créé par des scientifiques. Lequel?
Lequel de ces mots a été créé par un scientifique? Les trois autres ont été créés par des auteurs de science-fiction. Je les répète, téléportation, terraformation, le laser ou le robot. Ne dites rien, David Elbaz, Pierre Kerner, Tania Louis. Car chers amis auditrices et auditeurs, c'est à vous de jouer et de nous donner très vite la bonne réponse. Sur notre page Facebook, vous serez récompensés évidemment en fin d'émission. Le jeu, tiens donc le jeu, ça fait aussi partie de la méthode scientifique qui veut répondre. Tania, peut-être?
Oui, complètement. Le jeu, ça fait partie des dispositifs de transmission des savoirs que j'ai eu la chance d'expérimenter, parce que j'ai travaillé sur un jeu de plateau, sur un jeu en ligne et sur un escape game pédagogique
qui était justement
centré autour de la démarche scientifique. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, c'est un escape game qui est disponible clé en main pour les bibliothèques et médiathèques sur Internet, qui s'appelle Recherche à risque. Vous trouverez très facilement sur le site de la Fête de la Science que j'avais créé quand je travaillais pour l'association Délire d'encre en collaboration avec Science Animation à Toulouse, qui est désormais Instant Science. Et justement, ça se prêtait particulièrement bien à retracer la démarche scientifique, parce que qu'est-ce qu'on fait dans un escape game? On commence par explorer autour de soi, puis on rassemble petit à petit des indices et on résout des énigmes en s'appuyant sur les résultats des énigmes précédentes pour continuer à avancer. Et finalement, tout ça, c'est extrêmement proche de la démarche scientifique qui consiste à observer ce qui se passe, faire des hypothèses, essayer d'agencer les informations qu'on obtient pour arriver à une conclusion. Donc le côté ludique et satisfaisant du jeu marche vraiment très très bien pour diffuser les sciences et en particulier pour diffuser la démarche scientifique.
C'est vrai que c'est une enquête au fond que vous menez, vous chercheurs, à votre niveau dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, dans le cosmos pour vous, David Elbaz, dans ce qui est la biologie, l'évolution des animaux. David, c'est vrai qu'au fond, il y a à la fois du jeu, de l'enquête, il y a bien plus que ça aussi, mais il y a ça. C'est
oui,
le moteur.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'un jour, j'ai reçu un petit livre d'un enquêteur de police qui est passionné justement d'enquête et qui a écrit une histoire de l'univers qui est basée sur une enquête policière et pour lui il voit les deux de la même manière, etc. J'ai pas eu le temps d'interagir avec lui malheureusement, mais c'est, je trouve cette idée là est très bonne parce qu'effectivement c'est ça la ce qui fait que ça nous concerne tous, c'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Tania tout à l'heure, bien entendu c'est pas réservé aux seuls chercheurs. Parce qu'on est tous des chercheurs, qu'on le veuille ou non. On est finalement, après, certains sont payés pour être chercheurs, c'est un peu étonnant. Moi-même, je me dis pourquoi on est payé pour ça. Mais effectivement, l'enquête, on a les mêmes idées, c'est-à-dire qu'il y a un indice qui va changer, qui va indiquer une piste. Il va falloir être ouvert sur des voies qu'on n'attendait pas.
C'est
marrant parce que j'en parlais tout à l'heure avec un collègue. Pour moi, c'est exactement l'image de Columbo qui va poser une question. Et si vous lui demandez, mais pourquoi ? Qui va l'amener à quelque chose. Et si vous demandiez à Columbo, à ce moment-là du film, imaginons que ce soit un vrai Columbo, mais pourquoi posez-vous cette question ? Il vous dirait, j'ai l'esprit, il a l'esprit débridé, il s'autorise à poser une question qui n'est pas nécessairement liée à un sens. Or, la principale limitation des scientifiques, et puis même nous dans la vie quotidienne, dans la relation à l'autre, c'est le fait qu'on enferme la réalité dans des boîtes et qu'on n'est pas capable de poser une question qui est pas nécessairement, qui s'appuie pas nécessairement sur une théorie complète. Et cette capacité d'avancer en posant des questions qui vont vous permettre d'avancer sans savoir où vous allez, c'est quelque chose que le jeu permet d'expérimenter et que tout le monde doit pouvoir expérimenter. C'est fondamental pour gagner cette dimension d'humanité, à mon avis.
Ah oui, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Pierre, vous êtes d'accord dans votre science aussi?
Tout à fait. En fait, il y a des programmes qui permettent justement de détendre un tout petit peu les laboratoires ailleurs. Ça s'appelle les programmes de sciences participatives. Et il y en a de nombreux qui ont permis des contributions justement assez majeures. Je pense par exemple au programme Fold It qui permettait en utilisant un tout petit peu des aspects ludiques, entraîner des algorithmes à bien plier des protéines en utilisant justement le travail qui a été fait par de milliers d'utilisateurs qui l'utilisaient uniquement en termes de jeu. Et puis, il y en a d'autres pour pouvoir caractériser ou identifier des nouvelles espèces en utilisant les smartphones et prendre des photos de la biodiversité. Ça peut permettre justement de contribuer. Les programmes Viginature, par exemple, du Muséum d'Histoire Naturelle.
On pense aussi à Fripon, à tous les programmes d'astronomie amateur, à notre réseau extraordinaire d'astronomes amateurs sur le continent africain qui n'arrêtent pas de faire des choses. Enfin, voilà, il y a plein, effectivement, on peut faire appel à d'autres manières de penser, à des ouvertures d'esprit, finalement, à ouvrir les portes et les fenêtres.
Exactement. Et ça, je pense que c'est à la fois les portes et les fenêtres de nos propres esprits, mais aussi des laboratoires. Et ça, c'est de plus en plus quelque chose qu'il faudrait mettre en exergue parce que ça permet aussi de faire contribuer les citoyens en disant, voilà, la science, c'est pas quelque chose qui se fait uniquement dans les tours d'ivoire, dans des instituts fermés, mais c'est quelque chose auquel tout un chacun peut contribuer.
Peut participer. Autour de la question, comment cultiver l'esprit scientifique, il faut dire aussi que la plupart, disons, d'entre vous, de ces passeurs et passeuses de science, certains sont scientifiques au départ, d'autres non. En tout cas, presque tous sont devenus, David, vous êtes devenu conteur, mais beaucoup d'entre vous sont devenus humoristes. Pierre Kerner, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. La preuve tout de suite dans cet extrait d'une vidéo particulièrement délirante à laquelle vous avez participé à l'invitation de Marie, de la boîte à curiosités, autour d'une créature, comment dire, peu ragoûtante, extrait de l'infâme Cimotea, autrement appelé le pouls de la langue, et encore vous n'aurez pas les images.
Bonjour mes petits cloportes. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des mœurs secrètes et insolites d'un être étrange, le Cimotea exigua. Alors un Cimotea exigua, c'est quoi ?
Un parasite.
Alors le Cimotea, est-ce que tu savais qu'on l'appelait aussi poux mangeur de langue ?
Oui, et même que c'est un crustacé isopode parasite. Adulte mesure entre 3 et 4 cm. Et qui dit parasite, dit hôte. Et l'hôte préféré de Cimotea exigua, c'est un poisson.
Cimotea va alors discrètement se faufiler dans les branchies du poisson, et si la place est libre dans la bouche, il va alors gentiment s'accrocher à la base de la langue pour ne plus jamais bouger.
Une fois bien installé, il va commencer à extraire le sang du poisson à l'aide de ses 3 premières paires d'appendices. Puis il va grossir et muer.
Et il va continuer à pomper la langue jusqu'à ce qu'elle s'atrophie complètement et qu'il n'en reste plus qu'un petit moignon.
Simotoa devient un genre de langue de substitution, permettant au poisson de vivre normalement, devenant un organe presque fonctionnel.
Une fois bien à l'aise sur cette petite langue moelleuse, il va alors changer de sexe pour devenir une sublime femelle, qui patientera jusqu'à l'arrivée d'un mâle dans l'optique de se reproduire et faire plein de petits bébés Simotoa.
Vous n'avez pas honte, Pierre Kerner, de nous raconter, en plus là c'est sans les images, des histoires pareilles?
Ah non, je m'en délecte. C'est vraiment une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est à table, dîner de famille, avec les amis, etc., de raconter des histoires de parasitisme et de voir les mines déconfites de mes convives.
Pour reconnaître que c'est extraordinaire. Dans Moi, Parasite, enfin, c'est extraordinaire. C'est mieux qu'un film d'horreur.
Mais oui, justement. Et je trouve que c'est très intéressant d'essayer de pousser un tout petit peu les gens à se dire qu'ils sont limités dans leurs films de science-fiction, dans leur consommation de films d'horreur, de dire « Regardez la nature, vous en aurez pour votre argent parce que c'est beaucoup plus bizarre, dégueulasse, il faut le dire, et fascinant. »
Et puis, c'est aussi, alors on le dit souvent, que avoir l'esprit scientifique ou une culture scientifique, c'est lutter contre les fake news, et c'est aussi savoir que le vrai est plus beau souvent que le faux. C'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là, quand même, dans cette culture scientifique que vous partagez, David Elbaz.
La dimension de par rapport au...
La dimension à la fois de la vérité et du rêve, des deux en même temps, mais ah oui. qui est complètement différente de celle du faux. Et
c'est ça. Alors c'est le fil du rasoir, c'est ça qui est délicat, parce qu'effectivement, on est toujours tenté de chercher ce qui est beau, parce que ça va être plus cohérent, et parfois ça peut être une piste, parfois ça peut être une imitation. Lorsque Kepler a voulu expliquer les orbites des planètes, il n'y avait rien de plus beau que le cercle, et ça a été une souffrance d'imaginer l'ellipse. Et donc, voilà.
Oui.
Et même à la fin de sa vie, il a essayé d'imbriquer les solides platoniciens. Enfin, il revenait parce qu'il voulait trouver du beau.
Mais les mathématiciens aussi veulent trouver du beau. Enfin, il y a quelque chose dans l'humain qui veut trouver du beau.
Et ça peut être une limitation. Aujourd'hui, on parle de la théorie des cordes qui est très belle, qui est peut-être le meilleur argument scientifiquement, mathématiquement, etc. Mais peut-être qu'elle est fausse. Et donc, c'est difficile d'accepter que la réalité soit dégueulasse, comme on entend dire, quand on la regarde au microscope. Et par rapport aux fake news, par rapport à tout ça, on peut se demander, mais alors à ce moment-là, si le scientifique se trompe quand il prend la piste du beau, etc., alors on est tous bien placés pour pouvoir douter de tout savoir scientifique et puis remettre en question. Et là, on ouvre la porte, tout est possible. Et là, juste une petite chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que pour moi, le scientifique, c'est la science, pas le scientifique, toute personne qui a une réflexion scientifique va partager cette fragilité qui fait la force de la science. Cette fragilité, c'est l'ignorance. C'est qu'il faut être capable de nommer ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne comprend pas, pour pouvoir avancer dans la connaissance. C'est une fragilité parce que l'autre va pouvoir vous dire « moi, je sais ». Et souvent, le complotiste va vous dire, voilà, moi, comme vous, je doute. Sauf que, après, lorsqu'il va vous donner sa théorie complotiste, eh bien, il ne doutera plus de cette théorie-là, il sera dans l'incertitude. Donc, la véritable, le contraire de la connaissance, c'est la certitude, tandis que l'ignorance, je parle de docte ignorance en reprenant Nicolas de Cuse, c'est aussi la force de la science. Et être capable de nommer cette ignorance-là, ça nous ouvre des voies. Et donc, la vulgarisation, pour moi, c'est une façon aussi, pour le scientifique, de ne pas uniquement parler à travers l'acte scientifique qui est une forme de connaissance, mais d'accepter d'aller dans l'arène et dire aux gens, vous voyez, on est tous pareils, en fait, on ne sait pas. Partageons notre ignorance.
C'est ça, de faire passer, ça me fait penser à Edgar Morin qui dit, au fond, au fur et à mesure qu'il avance, il découvre l'étendue de son ignorance. C'est de faire passer cette fragilité-là, ce doute-là cette perpétuelle remise en question. Écoutez, certains de nos auditeurs et auditrices ont bien compris, je pense. J'ai envie de vous citer, parce que je trouve très, très beau, le petit témoignage, ce n'est pas une question que nous a mis sur notre page Facebook, une de nos fidèles auditrices à Madagascar, Mami Rakotomiaou. Avoir la culture scientifique ne signifie pas être titulaire d'un doctorat. Elle signifie être curieux, quel que soit le niveau d'instruction. C'est une disposition de l'esprit. C'est comme la culture du riz. Il faut l'implanter, l'entretenir, faire la récolte, le mettre à cuire et partager entre ces étapes des fêtes et des cérémonies. Magnifique hommage aux passeurs et passeuses de science que vous êtes autour de la question comment cultiver cet esprit scientifique. Certains n'ont même pas besoin d'efforts, comme Florent Marchais qu'on va écouter tout de suite, qui nous rappelle mieux qu'un long discours. Et en musique, de quoi nous sommes faits, de l'infiniment petit à l'infiniment grand et retour, ma particule élémentaire sur RFI.
Thank you. mon cosmos, ma galaxie, antimatière et longue nuit. Oh mes étoiles, ma voie lactée et mon soleil, rayon dardé. Oh mes comètes, tous mes nuages et ma planète prise en otage. Mes océans, au bleu cobalt, mes continents, mes îles de Malte. Écran capture, oh mon pays, ma préfecture, mon monoprix. Oh ma ruelle, oh ma maison, d'autres pixels à l'horizon. Oh mon amour et mes amis, oh mes enfants, ma chair, mon sang. Oh mon cerveau et mes poumons, mes litres d'eau, oui mon côlon. Mes reins, mon foie, mes testicules, mon estomac, oh mes cellules. Mon ADN, mes molécules, oh mes atomes, mes particules. Mes électrons, oh mes neutrons, protons et quartz à l'horizon. Enfin mes cordes, où que je sois, la vie déborde à chaque fois. La vie déborde à chaque fois.
La vie déborde à chaque fois. Florent Marchais sur RFI, ma particule élémentaire. Voilà qui nous parle à tous et toutes autour de la question comment cultiver un esprit scientifique en compagnie de nos invités, l'astrophysicien et conteur David Elbaz, le biologiste et blogueur Pierre Kerner, la médiatrice et virologue Tania Louis. Tous trois participeront au festival Double Science, première édition à Paris, dans le grand espace de Ground Control du 26 au 28 mai. Pierre Kerner, vous allez aussi ce soir participer à votre modeste mesure à Pint of Science France, au bistrot de la Banque à Paris, en échangeant autour d'un verre sur l'odyssée de l'embryon, rien que ça. Pint of Science est aussi un festival international de science à siroter dans de nombreux cafés, bars, pubs ou maquis du monde entier. Et tout de suite sur RFI, ou à défaut d'une pinte, on vous a proposé tout à l'heure un petit quiz de Pint of Science. Vous vous en souvenez peut-être, certains ont déjà répondu sur notre page Facebook, peut-être même gagné un petit cadeau, voir la BD de Pierre Kerner. D'autres ont peut-être oublié la question, alors on vous la repasse entre les deux oreilles. Après, ce sera à vous et aussi à nous de jouer.
Tous les mots ont été créés par des auteurs de fiction, sauf un qui a été créé par des scientifiques. Lequel ? La téléportation, la terraformation, le laser, le robot.
Lequel de ces mots n'a pas été inventé par un auteur de science-fiction, mais par un scientifique, David Elbaz ?
Le laser.
Oui. C'est pas la téléportation, auteur de science-fiction, c'est pas la terraformation et c'est pas le robot.
Terraformation.
Alors ce qui est intéressant, c'est que le laser, bizarrement, c'est peut-être encore plus science-fictionnesque que tout ce qui a été inventé par la science-fiction. Avec le laser, on est capable aujourd'hui d'entendre les ondes gravitationnelles, de capter des collisions de trous noirs, de voir des contractions de l'espace plus petites qu'un proton. Avec le laser, on est capable d'arrêter des atomes et d'atteindre des températures absolument nulles, c'est-à-dire que d'arrêter la matière alors qu'elle est tout le temps en action. Le laser, c'est le contrôle de la lumière qui se déplace à la vitesse de la lumière. Mmh. Et donc, c'est d'être capable de faire aller ensemble des photons qui sont les êtres les plus libres qui soient. Donc le laser, c'est plus dingue que ce qu'on peut imaginer dans la science-fiction, et c'est pour ça que ce sont les scientifiques qui l'ont inventé, parce que la science est plus folle que les plus dingues histoires imaginaires.
Vous confirmez, Tania Louis, vous aviez d'ailleurs participé à ce quiz de Pint of Science. Vous aviez trouvé ?
Oui, alors j'avais trouvé parce que je lis beaucoup de science-fiction, essentiellement, voilà. et je trouvais ça rigolo parce que justement, laser, c'est le seul de ces mots qui n'est pas vraiment un mot, puisque c'est un sigle.
Oui.
Light amplification.
Donc,
Et donc, vous aviez trouvé, vous, Pierre Kerner, vous aviez trouvé ?
Oui, pareil, pour la même raison, parce que je me souvenais que c'était un sigle, et aussi je me souvenais que robot, bah, ça vient du slave et ça veut dire travail. Donc ça, c'était deux que je pouvais, enfin un que je pouvais écarter, terraformation et télétransportation, je les avais pas, donc il faudra retrouver dans quel livre de science-fiction il se trouve.
Voilà, ça c'est encore un boulot, en tout cas bravo à vous tous et toutes qui avez participé, et vous aurez certainement droit à un petit cadeau, peut-être qu'avant de se quitter, je sais pas, vous demandez à chacun... Quelle est, je ne sais pas, la qualité ou le défaut le plus important pour être un bon, une bonne passeuse de science, Tania Louis?
Alors, la liste est longue, eh ben mais oui. Je vais essayer d'en choisir un qu'on ne dit pas souvent. Je dirais que pour être un bon passeur ou une bonne passeuse de science, il faut savoir se mettre à la place du public et réussir à rendre les sujets intéressants pour des personnes qui ne sont pas forcément intéressées à la base. Parce que ce n'est pas parce que ça nous passionne, nous, que ça va passionner tout le monde. Et on n'est pas enseignant. Le public qu'il y a devant nous peut partir. Il n'est pas obligé de nous écouter. Il n'a pas un examen qui arrive plus tard. Si on veut qu'il nous écoute, il faut qu'on lui prouve que ce qu'on a à lui raconter est intéressant. Et ce n'est pas si simple.
Ah, très joli. Je trouve que vous avez bien raison, Tania. Qui veut enchaîner? Pierre Kerner.
Pour moi, mais c'est très très personnel, ça a été de ne pas avoir peur du ridicule. C'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert les portes dans beaucoup de domaines, mais aussi de passer des sciences. C'est-à-dire qu'on peut justement se mettre dans une posture qui ne ressemble pas à cette image qu'on a du scientifique qui est rigoureux, scientifique, austère, etc. Non, non, on peut faire comme dans la vidéo dont vous avez diffusé un extrait, enfiler un costume de poisson, parler de des yeux, etc. Et au final, ça peut permettre de toucher des sujets qu'on n'aurait pas abordés avec le grand public si on n'avait pas fait justement fi de un certain ego.
Ah, David Elbaz, à vous, pas facile, hein, parce que je trouve que c'est leurs qualités sont très intéressantes.
Tout à fait. Oui. Bah, ça prouve que chacun vient avec sa richesse. Pour moi, c'est l'amour de l'humour. L'humour. Parce que ça permet de partager et c'est l'amour de la nature. Une fois, j'étais allé au Japon. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Et j'ai découvert un pays magnifique. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé face à un blocage et j'avais personne avec qui le partager. Et donc, quand on découvre la beauté de la nature, quand on découvre tous ces phénomènes, on a cet amour de la nature et on veut le partager. L'humour, c'est pour moi aussi très utile pour ça.
Un grand merci à vous tous pour votre humour, votre curiosité, votre humanité. Merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous. Alors, je rappelle que le festival Pint of Science est à découvrir en ce moment dans de nombreux pays du monde et en France jusqu'à demain soir. Le lien est sur notre page et vous y serez ce soir, Pierre Kerner. Je vous donne rendez-vous aussi au festival Double Science, première édition. Rendez-vous si vous êtes à Paris à Ground Control du 26 au 28 mai. Venez nombreux pour y rencontrer, par exemple, nos invités, dont Pierre Kerner et sa nouvelle BD « L'Odyssée évolutive » avec le dessinateur Max Sandon chez Delcourt dans la collection Octopus. Et puis avant, moi, je cite quand même « Moi, parasite » chez Belin, parce que j'ai adoré. Et puis un ouvrage collectif, « Retour vers le paléo »
dont Marion Sabourdi, on a entendu sa voix il y a peu de temps.
On a entendu dans le quiz, absolument, comme quoi tout se retrouve. Tania Louis, qui était avec nous depuis l'Aveyron par téléphone, « La folle histoire des virus », était paru chez Humaine Science. Et puis « La science en s'amusant », 40 activités en classe pour comprendre, pratiquer et aimer les sciences aux éditions de Box Supérieur et puis en vrai, en live, au Ground Control. David Elbaz, La plus belle ruse de la lumière et si l'univers avait un sens. Ouvrage magnifique qui vous a d'ailleurs dirigé vers une recherche paru chez Odile Jacob. Des romans aussi, hein, parce qu'on ne l'a pas dit. Le vase de pépis ou Alice Tao se souvint du futur. Et enfin, le dernier, Les 10 000 et une nuits de l'univers, La danse du cosmos dont je ne me lasse pas chez Odile Jacob. Merci à vous trois. Merci, chers amis auditrices et auditeurs, pour votre curiosité. À bientôt pour une petite pinte de science, une petite double science, voire triple science.
Volontiers. Bon,
autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous retrouver en rediffusion à 23h, temps universel, et vous abonner à notre podcast, disponible aussi sur l'appli RFI Pure Radio, nouvelle formule que je vous recommande. Chers amis auditrices et auditeurs, au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, en compagnie d'Evelyne et hier, autour de la question, à quoi jouent nos gènes, pour parler anthropologie génétique. Merci.